Salut meuf, je te sers un truc?
Je veux bien un petit cap, s'il te plaît.
En plus, il faut que je te raconte une histoire.
Oh, waouh.
Coucou Lisa.
Coucou Pauline.
Comment ça va?
Bah écoute, ça va et toi?
On a un petit bonjour à passer, les gars.
Ouais.
À qui?
Tu veux le dire ou je le dis?
Dis-le.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tête de tigre. Et on les regarde. Vous les voyez pas, nous on les voit.
On les voit, ils sont quatre.
Ouais.
Ils sont derrière nous,
ils sont
devant
hyper
nous.
Hyper nombreux.
Derrière l'écran, derrière votre écran.
On les remercie déjà de nous accueillir, de nous aider à produire le podcast, puisque voilà, on travaille avec eux. Donc on vous invite à aller voir leur page, leur compte pardon, Instagram, page Facebook, je ne sais pas si vous en avez un.
LinkedIn, peut-être pas. Spotify,
tout ça, voilà.
Tout ce qui s'ensuit.
Amusez-vous les gars. Et puis en parlant de compte Instagram, etc., on s'est dit que ce serait bien de se faire une petite auto-promo très
ouais,
rapidement.
Parce là. Qu'on s'est rendu compte, les gars, que vous étiez beaucoup à nous écouter, mais pas assez à être abonnés sur Instagram, sur Spotify.
C'est
donc,
super
s'il vous
insultant.
Plaît, si vous êtes arrivés là, que vous faites partie de nos auditeurs, abonnez-vous, mettez les petites cloches, etc. pour voir quand on sort des nouveaux épisodes, parce que là, il va en avoir pas mal, de mieux en mieux en plus, grâce à Tête de Tigre.
On vous prépare des dingueries, les gars.
Et donc, aujourd'hui,
ouais.
On se retrouve pour un sujet qui nous tient énormément à cœur, dont on a beaucoup discuté avec Lisa, qui est...
Le regard des autres. Alors, à l'inverse de l'épisode qu'on avait fait sur la réputation, ça va pas vraiment parler de la même chose. Là, on est vraiment sur comment le définir. Pas les cancans, les kiki, les...
Ouais, c'est pas les étiquettes, c'est vraiment
voilà.
Comment... Comment on deal, nous, ouais. Avec le fait que des personnes peuvent nous juger à l'extérieur.
C'est ça. Et sans forcément le verbaliser. Genre, ouais. C'est un truc que tu sens, quoi. C'est le regard qu'on pose sur toi.
Exactement.
Et comment tu le sens? Je te regarde droit dans les yeux.
Ouais,
ça,
on se fixe, hein. D'habitude, on se regarde
je
pas.
Je regarde dans ton âme.
D'ailleurs, on a décidé de diviser cet épisode en trois parties. Parce
ouais.
Que Lisa... Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi?
Ouais, en gros, déjà pour vous dire comment l'épisode va se passer, on fait un peu un petit voyage dans le temps en partant du passé plutôt,
ouais,
partant du
bien.
Passé, puis en allant au présent et en pensant au futur. Et en fait, on a eu cette idée-là, les gars, parce que moi, je fais une thérapie en ce moment qui est la thérapie EMDR. À l'inverse de la thérapie du rire, qui n'a rien à voir, parce que je peux vous dire que je rigole pas pendant cette séance-là.
Ça chiale à tout va.
Ça chiale à tout moment. En fait, vous nous direz si vous voulez plus d'infos sur ce type de thérapie-là, mais en gros, ça t'invite justement à avoir un pied dans le présent, un pied dans le passé, et du coup, un pied dans le futur, et ça t'aide à travailler sur plein de trucs. Du coup, on s'était dit que pour cet épisode-là, ce serait chouette justement de diviser... en trois parties. Et donc, la première question, je vais te la poser à toi, Pauline.
J'ai peur.
Tu n'as pas à avoir peur.
Je connais les réponses, oui.
Tu as tes petites notes juste en face, c'est OK. La première question, pour Pauline, encore une fois. Comment tu vivais le regard des autres quand tu étais jeune?
Alors, moi, pour tout ce qui est regard des autres, j'avais envie de l'associer à une phrase, un mot, un complément d'objet direct, qui est l'estime de soi. Pour moi, c'était ça qui était tout le temps mis à mal dans mon rapport aux autres. J'avais toujours l'impression que tout le monde me renvoyait un jugement.
Ouais.
Et ça, je sais d'où ça vient, parce que c'est ce qu'on se disait en off tout à l'heure. J'ai un
papa...
En off. Je me suis pris de prendre Jean-Claude Van Damme, Pauline Van Damme.
Oh putain.
J'ai un papa qui est très très strict, qui a toujours exigé la perfection avec moi et ma sœur. Donc c'était continuellement un regard très critique, pas ça c'est bien, fais mieux. Ouais. C'est ça, tu le fais, c'est normal que ce soit génial. Maintenant ça, tu n'es pas assez bien, donc fais encore mieux. Et donc j'ai eu le perfectionnisme gate très vite, ce qui m'a fait être très fermée et toujours dans la méfiance des autres. Et je me disais, mais tous les gens qui me regardent, qui m'écoutent ou qui me voient, se disent, elle, c'est une merde. Ça, c'est pas assez bien. Ça, faut qu'elle fasse mieux, etc.
Parce que du coup, au début, donc, ça partait plus pas d'une compète, mais d'un truc du coup plus avec ton père. Et ça a très vite découlé sur tout le monde.
Ouais, bon, en fait, ça s'est ancré dans mon cerveau de me dire, moi, en fait, tout ce que je fais, il faut que je le fasse mieux. Et tous les gens qui sont en face de moi me jugent de la même manière que mon père avait l'habitude de le faire. Okay. Donc je me disais, si on voit un défaut, on va me tailler direct sur ce truc-là. On va pas dire, ouais, mais t'as ça quand même qui est bien. Ça va être exactement, ça c'est de la merde et ça c'est nul.
Putain,
donc j'ai fait une espèce de grosse carapace pendant des années.
Mais c'était à quel âge, du coup, juste que tu t'es rendu compte de ce truc-là d'estime de toi?
Je pense que ça fait pas longtemps, parce que j'ai commencé à en prendre conscience quand j'étais en thérapie.
Ouais.
Mais plus jeune, pour moi, c'était normal. J'étais tout le temps en train de me dire, il faut rien montrer, il faut rien laisser paraître, il faut être la meilleure. Si j'avais un 14, je pleurais. J'étais ce genre
à l'école. Alors que 14, c'est énorme.
Ouais. Et j'avais trop peur. Je savais que ma mère, elle s'en foutait. Tu vois, par exemple, si j'avais un bulletin scolaire ou des trucs comme ça, mon père, c'était pas ça. C'était pas, t'as 18 là, c'était, mais là, tu as que 14. C'est nul. Et après, du coup, dans le monde pro, ou même quand j'ai commencé à faire des stages, j'étais tétanisée par l'autorité. Pour moi, toute figure d'autorité allait me dire, tu es une grosse merde et tu es nulle, et pars.
Mais ce qui sont hyper agréables, finalement.
C'est que des sensations trop chouettes. Faites des thérapies. Vous apprenez plein de choses, super sympa.
Et bientôt toi, l'épisode psy-thérapie, quand même. Enfin, ça va sortir à un moment donné.
Et toi, du coup, comment est-ce que tu jugerais le passé par rapport au regard des autres?
Je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à l'estime de toi et... Enfin, l'estime de moi, de nous, de vous.
De.
un peu toujours dans la même lignée que toi, ça a aussi un peu plus commencé avec mon père, parce que toute petite, je voyais mon père, et je le vois toujours, comme un mec hyper intelligent. Genre vraiment, pour moi, mon daron, il sait tout, c'est un dictionnaire vivant, il te fait tous les mots croisés, les trucs, machin, des mots qui n'existent pas, des mondes merveilleux, là, bref, il sait tout. Et donc du coup, quand j'étais plus jeune, non pas que ma mère soit bête, absolument pas, attention maman, j'ai pas dit ça, je sais pas si elle écoute, on sait jamais.
Peut-être.
Le pourcentage de 1 des plus de 60, c'est ma daronne. mais donc du coup pour le côté plus école, etc., je le voyais surtout avec mon père, c'était lui qui m'aidait et tout pour les devoirs, et donc je l'ai toujours perçu comme un mec hyper intelligent. Lui, il est très poussé dans les sciences, les maths, les trucs, alors que moi, mais je suis une, j'allais dire un gros
une bille.
Mot, une bille dans toutes ces matières-là, pour ne pas dire autre chose. Et donc du coup, il y avait un énorme complexe qui s'est créé, et je pense qu'il est toujours là, mais maintenant je me vois presque plus limite en compète avec mon daron, ce qui n'a aucun sens, parce qu'il a vraiment je ne sais pas combien d'années plus que moi. Et donc forcément, il est automatiquement, enfin, il a plus de connaissances que moi. Mais du coup, ça a commencé comme ça, avec au début un truc de j'ai envie qu'il soit fier, donc j'essaye. Sauf que je me rends compte que j'ai pas du tout la bonne logique pour tout ce qui touche aux maths, aux sciences, machin. Enfin, j'ai l'impression que soit tu l'as, soit tu l'as pas, de toute façon, pour ces matières-là. Et ce qui faisait que au bout d'un moment, je me suis un peu convaincue de du coup, t'es une merde. Donc je pensais que le regard que tout le monde posait sur moi, c'était t'es mignonne, mais t'es un petit peu con.
Ouais,
t'es mignonne, mais t'es un petit breton, quoi, pour ceux qui ont la ref. Et bref, donc voilà, en gros, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment l'impression d'être, et ça va sonner très haut à moi, mais constamment bête. Ce qui n'est foncièrement pas vrai, tu vois, enfin, comme ce que toi, tu disais, t'avais quand même des bêtes de notes. Moi, pas forcément, pas autant de 14. Mais en vrai, je me démerdais quand même bien. Du coup, je sais que à l'époque, j'essayais beaucoup de combler par autre chose, soit d'essayer d'exceller ailleurs, ou alors de devenir quelqu'un de très rigolo, parce que bon, c'est pas grave, t'es pas très bon à l'école, mais au moins tu fais rire, t'essayes
un de
complément,
compenser,
tu vois. Ouais, c'est ça. Mais du coup, un peu... un peu particulier.
Mais c'est fou ça, tu te rends compte en fait au final que, enfin ça on le sait parce qu'on voit des psys, mais que ta relation de base avec tes parents, ton lien d'attachement avec eux, ça découle après sur tout tes relations.
Ça commence par là,
Oui, il suffit que tes parents ils te mettent pas en confiance sur un truc ou que toi tu interprètes quelque chose comme un truc négatif chez toi. Mais après toutes tes relations pro perso, ça reprend exactement le même scénario.
Ouais.
Bah, en plus c'est ce qu'on se disait, c'est que avoir en plus cette critique constante qu'on nous la dise directement ou qu'on l'interprète, ça fait qu'on a un comportement, nous c'est ce qu'on se disait de people pleaser, d'essayer de, d'avoir toujours les angles arrondis avec tout le monde, d'éviter le conflit, d'éviter qu'une seule de nos failles soit mise en lumière. Du coup, est-ce que toi t'as eu ce type de tempérament-là?
Ouais, de ouf, parce que j'ai l'impression qu'en fait, t'as deux possibilités quand c'est comme ça. Soit effectivement tu pars sur un truc de people pleasing, donc on va réexpliquer juste après, soit un espèce de truc de rébellion, tu vois, genre justement je m'en fous tellement du regard des autres, c'est bon, je pète un câble,
que tu fais une tangente totale.
Je hurle la vie.
ouais c'est clair.
Et mais donc du coup ce qui est assez rigolo c'est que tu vois ma sœur, tu la connais, vous la connaissez pas, mais ma sœur elle avait justement elle était plus dans la phase de rébellion, rébellion d'ailleurs, mais je sais pas si c'est lié ou pas au regard des autres, au rapport tu vois avec mes parents, j'en sais rien. Mais du coup moi à l'inverse je me sentais plus sur un truc de effectivement people pleasing et le besoin de vraiment faire plaisir à tout le monde, être le plus parfaite possible, et ce qui n'est pas bon du tout parce que du coup tu t'effaces complètement au bout d'un moment.
Tu t'oublies totalement pour satisfaire les besoins des autres et surtout la peur du conflit. Ça crée une peur de poser des limites. Alors les limites c'est la chose la plus saine. Moi j'ai compris très vite que, enfin très vite pas du tout en fait, j'ai compris très tard.
Menteuse.
Pas du tout.
J'accuse.
Pas du tout assez vite ma pauvre. Que le fait de d'être people pleaser comme ça, ça m'a fait donc ne pas poser des limites.
J'ai dit people pleasing.
Mais je sais, on sait pas. C'est comme dysmorphophobie là. C'est des termes.
Il y a des mots les gars. On les connaît pas forcément. Foutez-nous la paix.
Mais tu sais, tu poses pas tes limites et ton corps, il va réagir. Ton corps, il est intelligent. Et moi, ça se manifestait par des crises de colère. C'est-à-dire que dès que je sentais que j'allais à l'encontre, par exemple, de m'affirmer face à quelqu'un, je tremblais, je devais genre ne plus parler à une certaine personne pendant 3 jours. Parce qu'en fait, à l'intérieur de moi, je me disais, tu peux pas poser une limite parce qu'on va dire que t'es une grosse connasse et que bah, tu peux pas, tu vas être méchante, tu vas être tout ça. Et de l'autre côté, mon corps réagissait en disant « Mais si, tu dois poser des limites aux gens !» Donc c'était tout le temps un conflit, c'est ça. Et du coup, ça faisait faire des giga crises d'angoisse. Et à partir du moment où j'ai appris à me dire « Tu peux dire stop, tu peux dire à ton père « Arrête de me juger !» Après, ça va mieux, les gars.
Ouais, mais effectivement, le temps de te rendre compte de tout ça, et c'est marrant parce que pardon, quand on préparait l'épisode avec Pauline, ça me faisait réfléchir forcément à plein de trucs en me disant « Ouais, mais c'était quoi justement tes mécanismes ?» Là où toi, justement, tu pouvais être dans un truc un peu de colère et d'un moment donné, j'ai envie de dire stop et après, ça explose. Moi, je sais que j'étais passée par différentes phases, notamment la phase grave dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, qui n'est autre que le « pick me ». J'étais une pick me girl à un moment donné.
Ça s'excuse.
Mais je pense qu'il y a une partie de nous, j'ai envie d'y croire, on a tous un peu été pick me à un moment donné. Et je sais que moi, du coup, c'était un peu l'étape juste après le fait d'être people pleaser, pleasing, plaisant.
Yes.
ENT, je sais pas.
ER. Accent grave. Allez, hop.
Merde, je sais plus ce que je disais. Ouais, du coup, c'était l'étape juste après donc le people truc de justement avoir tellement ce besoin de validation. Et en plus de ça, validation masculine, puisque bah, le fait de me sentir en compète avec mon père, de sentir qu'il est plus intelligent que moi, machin, je pense que ça a créé un peu un truc biaisé avec le rapport que j'ai au mec. Et donc, du coup, je sais qu'au collège, j'allais dire, enfin, des dingueries, c'était pas non plus des trucs de dingo, mais quand même un discours que je savais personnellement n'était pas le mien, genre, je sais pas, j'adore foot de rue, je sais pas, les gars, rentrons dans le cliché.
Tout le monde adore foot de rue.
Mais oui, en vrai, foot de rue, c'est incroyable.
non, mais
tu vois, genre vraiment des clichés possibles, enfin tous les clichés possibles de ouais, il faut que je me fasse valider et encore plus par la gente masculine, puisque pour moi, le regard qu'ils allaient poser sur moi, il fallait que ce soit un truc de. Pas ils sont fiers de moi, mais enfin, ils me valident, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on se disait aussi, c'est aussi à ce moment-là que tu peux entrer dans une phase d'hypersexualisation au moment de la puberté, etc. Quand t'as pas eu la validation nécessaire ou tu t'es pas senti assez bien et validé par le regard des autres, tu vas chercher justement à ce qu'on t'accepte et qu'on te reconnaisse en tant que femme, en tant qu'objet de désir, en tant qu'objet de féminité, de tout ce que tu veux. En fin de compte, t'es juste totalement fracassé à l'intérieur, mais t'es là en mode, toi, homme, tant que tu me valideras pas, je n'arrêterai pas.
Mais c'est
tellement toxique.
Ah ouais, non, mais meuf, complètement. Mais justement, pour le bail d'hypersexualisation, ça a bien parlé, d'hypersexualisation, c'est encore, justement, je trouve, l'étape d'après. Genre, vraiment, on pourrait faire un schéma de toutes les phases par lesquelles tu passes par rapport au regard des autres, l'estime de toi et tout. Et ouais, moi, je sais qu'avec du recul, il y a une période où je m'hypersexualisais à fond parce que, effectivement, ça me paraissait être le seul biais où je pouvais être intéressante, comme je me considérais pas comme assez intelligente. Après, je me disais, est-ce que t'es assez drôle? Est-ce que t'es assez ci, assez ça? Bon, tu sais pas, mais en tout cas, t'es une meuf. Bon, bah, écoute, la conclusion est vite tirée. Et je suis hyper à l'aise de dire tout ça devant tête de tigre. Pardon. Mais du coup... mais ouais, ça paraissait, ce chemin, du coup, comme on disait, de l'hypersexualité, etc., sexualisation, ça paraissait être le chemin le plus simple à emprunter. Du coup, est-ce que toi aussi, t'as déjà ressenti ça?
Ouais, moi, je l'ai ressenti de fou à partir de ma première relation, où j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, où en fait, c'était très basé au début sur « je vais être un mur et je vais juste faire... » la sexualité, je ne vais pas dire les autres termes, coucou maman, mais je manageais ma relation que comme ça. Et en fait, à partir du moment où il essayait de créer un lien émotionnel avec moi, je me disais, il va me juger, il va me dire que je...
Tu rapproches le micro,
pardon. J'ai vu ses yeux vers... Donc je me disais qu'il allait me juger et je voulais tellement pas qu'on m'atteigne que je me disais ça me permettait de garder à distance les mecs. Ouais. En même temps, j'avais tellement besoin de leur validation pour me dire je vais mieux, c'est bon, je suis validée. De l'autre côté, il m'effrayait parce que je me disais si un homme m'approche, il va me faire comme mon daron, il va me dire que je suis qu'une merde. En fait, c'était un cercle vicieux et jusqu'à ce que je comprenne que tu peux avoir des relations super saines et les gens ne sont pas tous là pour te dire que t'es une merde. Et du coup, cette hypersexualisation-là, elle m'a, pendant des années, servi de gros mur, et au final j'étais trop mal. Au fond de moi, c'était une période où je faisais comme si j'étais grave confiante dans mon corps, dans tout ce que tu veux. Au final, c'était tout l'inverse.
Et puis en plus d'effectivement l'entourage, l'environnement dans lequel t'étais quand t'étais plus jeune, t'as aussi, et c'est le truc, l'étape juste après dont on va parler, le fameux male gaze, qu'on voit un peu partout. Est-ce que tu serais OK à le définir pour tous nos auditeurs?
De manière, je vais faire comme on fait en cours quand t'apprends à le définir à ta grand-mère. Le male gaze, c'est le fait que tout ce qui est, on va dire, tout ce qui représente la femme ou ce qui représente les relations ou ce qui représente la société de manière générale soit fait en fonction du regard masculin plutôt que le regard féminin. Par exemple, un film, une scène de sexe va être tournée en fonction des attentes de l'homme, en fonction d'un point de vue d'un homme et très peu souvent en fonction d'une femme. Donc les caméras vont par exemple zoomer sur une poitrine de femme et tu vas jamais avoir l'inverse sur le corps d'un homme. Ça va être tout le temps des choses comme ça. Et le fait que toutes les injonctions...
Pardon, j'ai envie de faire une grosse blagounette.
C'était quoi?
Non, c'est vraiment une blagounette de bébé. Non, pardon. Je t'ai coupé alors que c'était hyper clair.
Et que toutes les injonctions, en fin de compte, elles soient tournées vers tout ce qui est les hommes, et sans suite patriarcat. Et bref, ce n'est pas un podcast féministe.
Patriarcat, au feu. Les gars, on a fait la manifestation du 8 mars. On espère que vous aussi. mais du coup, oui, c'était très clair. Et effectivement, je pense que le male gaze joue quand même beaucoup, forcément, quand toi, t'es en train de te construire. Enfin, on dit rien de nouveau. Je pense qu'il y a plein de podcasts, de vidéos, de tout ce que tu veux qui parlent de ça. Mais effectivement, ce serait bête de notre part de ne pas le citer là dans cet épisode.
C'est comment on se construit. C'est ce qu'on s'était dit, nous, dans un des podcasts, un des premiers qu'on a fait sur les relations toxiques. On parlait de Bridget Jones, on parlait de Gossip Girl, etc. Où en fait, nous, on se construit à l'adolescence en tant que jeune femme par ce point de vue de il faut pas être trop sensible, il faut quand même être une femme mais accessible, mais charismatique. Ça on en a déjà parlé aussi plein de fois, mais tu vois ce côté où t'as envie d'être un peu douce mais en même temps un peu growl, mais en même temps un peu dure. Et en fait le seul truc que t'attends derrière, c'est qu'on te dise c'est bon, en tant que femme je te reconnais, et le regard de l'homme juge toute ta personnalité.
Ouais,
et donc ça influence quand même pas mal toute notre construction.
Donc après tous ces différents éléments là qu'on a cités, est-ce que toi t'as l'impression que ça a été une source justement d'angoisse, d'anxiété? Est-ce que t'as l'impression que c'est un peu parti de là, même si on sait qu'il y a plein d'autres facteurs, tu vois, mais t'as l'impression que ça a joué?
Ouais, en vrai j'ai commencé à faire de l'anxiété sociale très 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 jeune, c'est-à-dire que pour la petite blague, le premier garçon qui m'a demandé de sortir avec moi, j'ai fait une crise de tétanie, j'ai fini aux urgences.
Drôle, mais pas drôle.
Par crise d'angoisse, parce que je me suis dit, oh mon dieu, quelqu'un va m'atteindre, quelqu'un va être proche de moi.
D'accord, ok.
Pas possible. Et ça m'a demandé tellement de vulnérabilité, enfin ça atteignait justement tellement ma vulnérabilité que quelqu'un veuille être proche de moi, qu'en fait mon cerveau a développé une peur de l'autre tout le temps. C'était même plus j'ai peur du regard des autres, je suis tétanisée par les êtres humains, je suis incapable de faire un oral, incapable de me présenter, d'être avec d'autres gens, de créer des liens tout simplement, que ce soit amicaux ou amoureux, c'était impossible pour moi. Et je faisais des crises d'angoisse tout le temps, tu me mettais en soirée, crise d'angoisse, dès qu'il y avait plus de deux regards sur moi, je faisais des crises de tétanie, j'étais sous Atarax juste pour être au milieu d'une foule.
D'accord.
Parce que je me disais, tellement les petites voix dans ma tête me disaient mais tout le monde te juge, tout le monde te juge, tout le monde te juge.
Ouais, donc directement c'est protection, je me barricade, t'as pas accès à moi.
Exactement.
Okay.
Et toi?
Moi je suis pas du tout quelqu'un d'anxieuse. Vraiment, je connais pas. Faux. Ok, non, j'allais citer quelqu'un. Non. Non, effectivement, vous avez la ref chez vous. Et ouais, non, moi, c'est un peu pareil que toi. Après, j'ai l'impression, et là, en fait, ça y est, un saut dans le présent, dans le aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un peu plus récent. Qu'avant, j'avais moins de difficultés, justement, à interagir avec les autres, à capter certains trucs, mais en fait je me mettais aussi beaucoup en voile avec donc tous les éléments qu'on a cités juste avant et le fait un peu de jouer un personnage, tu vois. Et alors qu'aujourd'hui bah je commence aussi à, enfin j'ai grandi quoi, entre temps je suis une femme, j'ai pas peur de le dire. Moi mes 25 années et donc du coup, forcément, il y a plein de choses dont j'ai plus conscience. Il y a aussi une déconstruction forcément qui s'est faite, et donc cette déconstruction là a amené à de l'anxiété, parce que justement j'ai capté tous les trucs que je disais juste avant par rapport à mon daron, par rapport au regard des autres, à mon rapport avec les hommes, avec les femmes, enfin avec n'importe qui en fait. Et donc du coup, aujourd'hui, je sens bien que cette déconstruction c'est une bonne chose quand même, puisqu'il faut capter les regards qui peuvent être négatifs, mais aussi il y a des regards qui peuvent amener de bonnes choses si on essaye quand même de rajouter une petite touche positive à tout ce qu'on se raconte depuis le début. Mais ouais, la déconstruction a du bon, mais effectivement, moi en tout cas, ça m'a fait réaliser plein de trucs. Et ce qui fait que là, aujourd'hui, je sens que j'ai plus un blocage émotionnel qui avait pour le coup, enfin qui n'était pas présent, tu vois, avant. Et aujourd'hui, c'est vraiment non.
Et tu sens que c'est vraiment lié au regard des autres?
Ouais. Après, bon, ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas d'autres choses, tu vois, qu'on jouait. Mais je sais que si, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup affectée, parce que je l'ai toujours perçu un peu moins quand même aujourd'hui, mais je le percevais beaucoup comme un truc négatif. Et de toute façon, les gens, le regard qu'ils vont poser va automatiquement me faire du mal et va être tout l'inverse de ce que moi j'aimerais être, de la personne que j'ai envie d'être, quoi. Et donc du coup, effectivement, ça a amené à cette espèce de blocage émotionnel de « vous ne passerez pas, je ne vous laisserai pas me connaître profondément et quitte à jouer un nouveau personnage. » Il y avait le personnage du passé, il y a un nouveau perso maintenant.
Ouais, t'es dans une protection constante où du coup tu fais un effet de rejet des autres.
Ouais, c'est ça
que j'avais ressenti, c'est tu repousses tout contact. Ou alors tu gardes vraiment une image, l'image que t'as envie de montrer, t'as ton image pro, ton image perso, etc. Mais vraiment la toi authentique à 100%, là, déjà savoir qu'elle existe, enfin je sais pas si toi ça te faisait ça, moi j'ai découvert que j'étais pas la personne que je pensais depuis genre tellement longtemps, j'étais mais ça j'aime pas, je fais ça parce que j'ai l'impression que c'est sympa et que si je le fais les gens vont
kiffer. Mais tu fais le semblant,
tout est tellement un jeu de ton ego. Et au final vu que tu sais pas si tu dois faire confiance aux gens, si les gens te jugent, si toi tu te juges, au final tu te rends compte que tout vient tellement de toi que le moment où tu te déconstruis et que tu essayes de reprendre soin vraiment à 100% de toi-même, bah, y a un espèce d'effet où tu te dis « Ok, plus personne ne m'approche là pendant un certain temps, je veux remettre, je veux savoir qui je suis. »
Mais ouais, moi j'avais l'impression d'être vraiment genre, influencée par tout le monde et du coup j'étais un peu un puzzle humain de plein de pièces de chacun, genre « Toi j'aime bien ça, toi j'aime bien ça. » Donc hop là, je me façonne un peu à tout ça. Et donc là j'ai l'impression d'être un peu... enfin pas en crise identitaire non plus parce que vas-y j'ai commencé un peu à capter qui j'étais t'as vu on sait mais quand même la phase de réalisation elle est pas simple je trouve
et t'as un moment particulier qui a déclenché cette phase là
ben il y en a un qui se passe en ce moment un très précis qui n'est autre que le chômage. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet de Pôle emploi méga sûr. On en rit,
on en pleure beaucoup aussi.
Ouais. Mais en vrai, bon, forcément, j'avais déjà commencé à capter ça, tu vois, un peu avant, le fait d'arrêter mes études, enfin, de terminer tout ce cursus-là, d'être un peu livrée à moi-même, ça aide quand même aussi beaucoup. Et là, effectivement, cette grande étape, cette grande phase de la vie qu'est le chômage, bah, putain, ça fait apprendre plein de choses sur soi. T'aimes bien, toi, être au chômage?
Et
pas
toi,
avoir un rond.
Tu vis comment le chômage? Non, bah moi comme toi, ça m'a déclenché toutes mes pires crises d'angoisse. C'est surtout, je trouve avec le chômage, c'est tellement un facteur social quand on te dit toi t'es chômeur, toi t'es
au chômage. Mais c'est une insulte. Pourquoi c'est une insulte?
Et c'est un tel. Moi je sais que ça fait un an maintenant. Waouh, première année. Romantique. Ça fait un an que Pôle emploi et moi vivons une relation fusionnelle. Et au début, je pense que je me suis rarement, mais vraiment, même après des centaines de ruptures, sentie autant comme une merde qu'au moment où j'ai fait mon inscription Pôle emploi, que j'ai vu que les offres de taf, il n'y en avait pas, que j'ai vu que toutes les études que j'avais faites... Désolée à tous ceux qui font de la communication, mais c'est dur après. Que toutes les études que j'avais faites, elles me plaisait pas peut-être à 100%, que je me suis dit mais est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que je suis dans les bons domaines, est-ce que je suis dans la bonne ville, qui je suis au chômage, je fous rien, je suis devenue ma hater numéro 1 à me dire mais tu fous rien, mais tu te rends compte la honte d'être au chômage, mais à ton âge tu devrais être en train de travailler, mais va postuler ailleurs, mais t'es pas capable d'être prise quelque part, enfin c'est horrible. Et c'est ce moment là où je pense j'ai pris conscience que ces petites voix là elles étaient là depuis tellement longtemps et que j'avais tout ce que je me disais, les autres vont me juger, les autres vont dire ça de moi. En fait, je me le disais déjà tous les jours toute seule. Ouais. J'avais besoin de personne pour le faire.
Ouais, de ouf. Bah, c'est sûr que, comme on disait à l'intro, cet épisode-là parle pas du tout des étiquettes qu'on te colle, des candiratons. Candiratons.
C'est beau. La balle dans le pied, après.
C'est super vieux. c'est pas comme tous les bruits de couloir que tu peux entendre, tu vois, quand t'es jeune. C'est vraiment réaliser, effectivement, que tous ces bails de le regard que les gens posent sur toi, machin, effectivement, c'est que, en fait, tes discours intérieurs qui, à un moment donné, ressortent. Et effectivement, nous, on s'en est rendu compte un peu au même moment avec mon petit cœur de Pauline, parce que on a vécu ça, donc le chômage, au même moment. Et puis surtout, enfin, précédé d'un burn-out, quoi. Donc, forcément, ça n'aide pas. Et puis, ouais, c'est quand même un truc qui est assez, assez difficile, puisque bah, nous, pour le coup, on a lancé pas mal de projets, notamment tard l'époque, on a lancé d'autres trucs à côté. C'est pas comme si on n'avait rien foutu. Mais t'as quand même l'impression qu'on te juge parce que on te dit qu'il faut que tu rentres dans ce moule-là, que la vraie vie, c'est t'as fini tes études, CDI et tout, même si, bon, on sait que notre génération bouge un peu. Bouge un
voyage.
Peu tout ça, voilà. Mais quand même, il y aura toujours une partie de nous qui aura envie d'une vie, tu vois, un peu classique. Un peu classique. Et c'est dur, justement, de s'avouer que, bah, non, en fait, j'ai pas envie de ça. Ça veut dire aussi accepter que, bah, là, tu vas passer dans une phase de merde, que, bah, potentiellement, il va y avoir d'autres projets qui vont marcher ou, à l'inverse, qui vont pas marcher. Enfin, bref. Et du coup, c'est difficile de faire la part des choses, de ce que tu prends et de ce que tu gardes.
Et puis, tu te sens tellement vulnérable, je trouve, dans cette phase de post-. post-études, post-tout ce que tu veux, où t'as tellement forgé dans ta tête l'image que tu voulais de ta vie professionnelle, que quand t'arrives dans la vraie vie et que tu te dis, mais attends, mais moi, un 8h, 16h, désolé à tous ceux qui travaillent en mutuelle, mais dans une mutuelle, à faire des plaquettes, enfin, ça me vend pas du tout du rêve. Et tu te dis, à l'école, on me vendait autre chose. Et quand je faisais mes études, c'était différent. Et je vois là maintenant un peu les gens qui ont notre âge, qui ont 24, 25 ans, qui sortent d'études. Et ils se rendent tous compte qu'en fait, là, tout le monde va quitter ses études. Je suis désolée, les gars.
C'est pas le but.
Renseignez-vous à l'avance. Parce que nous, le choc que ça fait d'arriver sur le marché du travail et de se rendre compte, ah ouais, ok, donc c'est pas aussi fun que ça en a l'air. Et aussi, il y a tout ce qu'on se disait dans l'épisode sur les réseaux sociaux, où il y a beaucoup d'entreprises aussi qui jouent sur cette faiblesse des jeunes pour les appâter et après avoir des conditions de travail compliquées. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
On sera l'épisode 2 du burn-out. On donne les noms.
On donne les hâtes. On balance le dossier prud'homme.
Mais en plus, je sais pas si toi t'as eu ça, mais moi j'avais un peu l'impression que on me regardait comme si j'étais en crise d'ado, quoi.
Ouais.
Et que même là, actuellement, je suis en train de faire mon caca nerveux, mon petit boudin de mon côté, de non, j'irai pas travailler.
Ouais, t'es fâchée.
Mais c'est pas ça. J'adorerais travailler, mais c'est juste que vous me plaisez pas et je vais pas dire le contraire, tu vois. Et ouais, non, mais c'est dur parce que y aura toujours une partie de nous, je pense, où t'as envie un peu de rentrer dans le moule commun. Et l'autre partie où, surtout que nous, on connaît aussi nos profils, on sait ce qui nous donne envie, mais ça, c'est encore un tout autre débat.
Et puis, il faut accepter aussi qu'on est à l'école, enfin là, pour finir sur le côté très pro, on est à l'école depuis qu'on a 3 ans. On enchaîne les études, on a très peu de connaissances sur le monde pro, les métiers du digital, etc., ça devient de plus en plus énorme. Il y a plein de métiers qui n'existaient pas avant, qui existent maintenant, et il ne faut pas hésiter à prendre du temps. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à accepter de me dire, bah là, peut-être pendant 1 an, 2 ans, juste, je fais des trucs que je kiffe et je verrai où ça me mène. C'est pas parce qu'on sort d'études qu'on doit rentrer dans un CDI le lendemain. On a le droit d'essayer de créer des choses, de se planter, de recommencer. Ouais, et c'est justifiable de dire, là, je prends le temps de savoir ce que je veux faire plutôt que d'arriver à 35 ans et de refaire un burn-out parce qu'on n'aime pas son taf. Donc, prenez le temps dont vous avez envie et besoin. Même post-études, il n'y a rien qui presse.
De ouf.
À part le regard des autres.
Exactement. Et je sais que toi, t'avais noté un truc dans tes notes, tu me l'as dit tout à l'heure, mais je l'ai oublié, qui était bien, genre que ce qui se passe dans ta tête, ça reflète ce qui se passe dans ton corps. Non, c'est quoi déjà que tu m'avais dit ? Qu'introduisait bien le truc juste après, par rapport au rapport au corps. Tu te souviens en fait de ce que tu m'as dit tout à l'heure ? Je sais plus, mais en tout cas, je me suis noté qu'il y avait un truc très bizarre, en plus de comment tu te sens psychologiquement, c'est aussi comment tu te sens physiquement. Et le fait que t'as un rapport très bizarre qui commence aussi à se faire avec ton corps, justement dû au regard des autres, à ton hater un peu intérieur et tous les discours que tu vas te tenir. Et moi, je sais que ça me provoque du coup un truc très bizarre où je me sens pas du tout connectée à moi-même. C'est-à-dire que je vais me regarder, je vais dire « Dac ». C'est tout. Genre, vraiment, je me serre la main, le matin, c'est check, c'est bon, tu vois.
Et moi, j'ai le même visage.
Voilà, ça n'a pas bougé, même si des fois, je me regarde, je me dis, t'as toujours eu ce... bizarre ? Étonnant. Je savais pas. Mais, mais tu vois, il y a un peu aussi un truc bizarre, là, de... tu te rends compte de plein de choses parce que tu grandis, parce que t'es adulte, mais en même temps, t'es un jeune adulte, et en même temps, parce que t'es pas un jeune enfant. Enfin bref, il y a plein de trucs qui se passent dans ta tête. Et du coup, j'ai l'impression que des fois, j'ai pas pris le wagon à la bonne allure. Ça a du sens, je sais pas, mais où genre, je vois mon grand corps d'adulte, cette grande dame qu'elle est, tu vois, et je...
Oui, il y a un fossé.
Il y a pas de connexion, tu vois.
Il y a un fossé entre, je trouve, quand t'as 18, 20 ans, 21 ans, où t'as... c'est comme si t'étais toujours en dissociation à cette âge-là, à peu près. Où t'es dans l'euphorie totale, t'es une personne à part entière. Et après, tu rentres, nous, par exemple, là, vers 24, 25 ans, c'est comme si tu t'ancrais à l'intérieur de ton corps et que tu reprenais conscience en plus de qui t'étais, de ce que tu ressentais. Et il y a une espèce de prise de conscience de « Ok, c'est moi ». Je suis comme ça.
Mais puis meuf, enfin je sais pas si toi ça te fait ça, moi je me sens vieille, genre quand je me réveille le matin, je commence à avoir mal au dos. Genre vraiment je suis genre ouf. Tu sais je pousse des je souffle quand je me lève, mais ça va pas madame. Mais vous avez vraiment vieilli. Mais tu sais du coup ça fait bizarre, genre ma tête elle est pas du tout au même endroit que mon corps.
Ouais.
Ce qui fera un être humain très bizarre.
très déformée, mais ma foi.
Mais du coup, toi aussi, tu ressens un truc similaire ou pas du tout?
Ouais, moi, je sens que j'ai l'impression que je ne maîtrise plus mon corps. Mais je pense que ça va dans le côté où avant, j'étais dans justement l'hyper-sexualisation, faut toujours être en soirée, être en crop top, ça mène un truc en machin. C'était marrant, 12 minutes 30. Et maintenant, où c'est l'inverse, que j'essaye de vraiment plus être au contact de moi-même, de mes émotions, etc. Ça que je te disais tout à l'heure, c'est qu'au final, je me rendais compte que mon corps, il me parlait. Je l'écoutais pas, mais il me parlait parce que je faisais tellement de crises d'angoisse, j'étais tellement anxieuse. Qu'au final, t'as l'air de vouloir rire.
J'ai un peu envie de rire. Mais pardon.
C'est quoi qui t'a fait rire?
Non, toujours des blagues nulles. Mais oui, du coup, ton corps te parlait?
Ouais, mon corps me parlait dans le sens où l'anxiété, si vous faites de l'anxiété, mais de manière très sévère. Moi, j'ai eu un trouble généralisé anxieux de mes 10 ans à mes, je pense, 22 ans, à base de tout ce qu'il faut, d'Atarax et compagnie, de psychologue à foison. Et j'ai jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'était une déconnexion entre ma tête et mon corps. J'étais incapable de situer une émotion dans mon corps, incapable de situer une envie. Je faisais n'importe quoi. Je n'étais pas au contact de moi-même. Et à partir du moment où j'ai compris tout ça, j'ai commencé à faire la méditation du yoga, à me recentrer et à écouter tous mes ressentis, que ce soit la colère, toutes les émotions. Et ce qui fait que maintenant, j'ai l'impression que plus personne ne peut m'approcher. J'ai l'impression d'être bloquée à l'intérieur de moi et de ne plus réussir à en sortir. Et c'est presque très très lourd parce que je me reconnais pas, je reconnais pas la légèreté que j'avais avant, je reconnais pas le côté très insouciant, etc. Et je me sens très enfermée dans moi-même. Avec certes, j'ai pris conscience de plein de trucs, de plein de traumas, de tout ce que tu veux, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Et là, dans une phase, j'ai l'impression, comme toi, d'avoir 48 ans, d'être en mode waouh, mais un peu de fun, s'il vous plaît, dans la vie.
C'est lourd en vrai.
Et ça se ressent à l'intérieur.
Ouais, complètement. Et justement, j'ai envie de faire un peu un bond dans le futur, si tu m'autorises.
T'as peut-être le droit, mais c'est pas sûr.
Parce que justement, tu parlais un peu du truc de ça devient lourd, tu vois. Et qu'est-ce que tu te souhaiterais justement dans ton toi du futur, donc toujours en lien avec le regard des autres, le regard que tu portes sur toi-même, ton discours, tu vois, intérieur. Qu'est-ce que toi, tu te souhaiterais?
Je pense que j'aimerais trouver un équilibre de manière générale entre le fait de me protéger par peur du regard des gens et le fait de, au final, être ma propre hater. Parce que c'est un cercle vicieux, j'ai peur du regard des gens, donc je m'enferme, je m'habille beaucoup plus large, je montre beaucoup moins de choses de moi, je vais beaucoup moins au contact des autres. Mais au final, ça me coupe d'un truc parce qu'il n'y a qu'à travers les relations avec les autres que tu peux te découvrir, que tu peux avancer, créer du lien. Et c'est la base de la vie, c'est de créer du lien avec les gens.
On est des êtres humains, on a besoin d'être avec plein de gens en vrai.
Et j'aimerais équilibrer ces deux trucs-là, de ne pas me laisser envahir par des choses négatives et par le jugement et par des gens mal intentionnés, savoir me défendre, mais en même temps, du coup, laisser l'opportunité de... Enfin, me laisser des opportunités de vivre des choses.
Ouais, complètement. Ça rejoint un peu ce que tu disais, et puis surtout d'être plus spontané, parce que là, au final, je sais que j'ai pris l'habitude depuis très longtemps de tout calculer, mes échanges ils sont calculés, ma façon d'interagir avec les gens elle est calculée, parce que justement je me protège, que j'ai pas envie que on me connaisse vraiment.
Mais mysterious girl.
Non, c'est pas du tout que je suis mysterious, c'est que j'ai une peur bleue des autres, mais donc du coup j'aimerais laisser un peu plus la place à un peu de folie, parce que comme on se disait, enfin des fois on se parle avec Pony, on a qu'on a 40 ans, ça va pas. Il est grand temps de s'amuser et puis de plus faire attention au regard, au jugement que les autres peuvent avoir sur nous, puisqu'au final on se rend compte qu'il y en a pas non plus tellement en vrai de vrai, ou alors bon, les gens au pire ils pensent ce qu'ils veulent. Après c'est idéaliste aussi de dire c'est bon, je m'en fous des autres, je les écoute pas et tout. Non, on fera toujours tous attention à notre image et à ce que les autres pensent de nous, mais je pense qu'il y a toujours il y a des trucs bons à prendre et des trucs qui peuvent être faciles à rejeter. Et donc moi j'aimerais bien
plus tard avoir justement cette faculté de discerner ce qui est bon à prendre de ce qui ne sert à rien, si c'est moi juste mon discours interne de grosse méchante envers moi-même, et du coup juste être spontanée dans mes interactions, et c'est ça qui crée un peu de joie de vivre, de je sais pas, de facilité dans les échanges, enfin
bah, en fait une fois que tu comprends que la peur des autres c'est la peur qu'on mette, enfin qu'on touche à un point sensible que tu connais déjà chez toi mais que tu peux pas conscientiser.
Comme tu veux, t'es super même. Belle.
Mais une fois que t'as compris ça... Enfin, quand tu te fais le scénario, moi, un jour, ma psy, elle m'a dit « Mais vous faites que de dire que vous avez peur que les gens pensent ça, de vous. Mais au pire, ils le pensent, ça fait quoi ?» Et en fait, bah ouais, jusqu'à ce que j'arrive au constat que je me dis « Bah, ça validerait ma croyance limitante que je suis cette personne-là. » Donc souvent, c'est nos croyances limitantes qui font qu'on a peur de ce qu'on peut renvoyer. Et à partir du moment où tu as de l'estime de toi et tu sais que tu es une bonne personne, il y aura forcément des gens qui t'aimeront pas, qui te jugeront de manière négative. Mais c'est aussi prendre le risque que des gens te jugent de manière positive. Et c'est ça qui te réparera. Si tu as des problèmes, que ce soit dans ta famille ou que tu as eu des relations compliquées, c'est qu'en réessayant de faire confiance, en réessayant de créer des relations saines et d'avoir des avis positifs sur toi, que tu peux réparer ce pattern-là. Sinon, bah, ok, tu es victime de ta vie toute ta vie et tu dis personne m'aime et je suis une grosse merde et voilà, et bonne vie à toi. Et tu restes ton propre prisonnier.
Super bien dit. Voilà. C'est super beau. Ça pourrait presque faire être en guise de conclusion, finalement. Mais ouais, les gars, faut être indulgent avec soi-même et tout ce qu'on raconte, c'est aussi pour nous faire prendre conscience et vous faire prendre conscience peut-être en même temps que le travail, il est principalement à faire sur vous-même, sur le discours que vous tenez intérieurement, de capter qu'effectivement les choses qui vont t'énerver chez les autres ou te faire peur, c'est un truc de miroir, c'est ce que tu me disais tout à l'heure quand on buvait un petit caf, donc on recite tes mots. Et ouais, les gars, faut être indulgent en vrai avec soi-même.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Au final, le regard des autres, c'est juste soi. C'est le regard des autres, c'est un gros terme pour dire que vous n'avez pas forcément l'estime de vous ou la confiance en vous. Et à partir du moment où tu fais ce taf-là de te dire « Ok, j'ai pas confiance en moi », du coup, tout le monde me tétanise, bah, concentre-toi sur toi. Moi, pendant des années, j'ai essayé de comprendre ce qui allait pas chez les autres, pourquoi cette personne la m'effraie. Non, en fait, c'est moi qui ai peur, c'est moi qui suis pas sereine. Et à partir du moment où ça va mieux, t'as plus peur de... Enfin, c'est pas que t'as plus peur de personne, t'auras toujours peur, mais ça se canalise et tu sais au fond de toi que si on te fait une critique, tu sauras répondre calmement, tu sauras savoir que c'est pas la vérité, que chacun a son prisme. Et voilà.
Est-ce que c'est une fin d'épisode ?
Je crois. Oh mon Dieu.
Ok.
Bah les gars, on espère que ça vous a plu.
Bah ouais, moi je vous souhaite plein de bonheur, je nous souhaite plein de bonheur.
Et plein de détachement du regard des autres.
Exactement.
Et
si l'épisode vous a plu... Alors, on nous a dit qu'il fallait dire ça. Non, je rigole. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à... On va vous faire une petite liste. Dans un premier temps, nous envoyer une lettre. Dans un deuxième temps, nous faire
envoyer
un Lydia.
De l'argent.
On rigole. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire sur Instagram. On lit vos messages, on répond à vos messages. Et c'est trop bien, on vous aime trop. Aussi à mettre une petite étoile, là, un petit avis
mettez les étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast.
Ça nous ferait trop plaisir.
Ouais, c'est trop cool. Chouette. Et abonnez-vous aussi sur Spotify pour voir toutes les sorties d'épisodes.
Ouais.
Et puis, bah, partagez l'épisode en nous taguant sur Instagram si vous en avez envie. Ça
Exactement.
Nous fait toujours très chaud au cœur.
Chaque nouvel abonné gagnera une Tesla. Voilà. On vous fait des gros bisous.
Et puis, bah, bisous Lisa.
Bisous Pauline.